Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à notre radio web et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Alexandre Maral, bonjour.
Bonjour.
J'ai l'habitude de remercier nos invités d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je le fais à nouveau bien volontiers, mais je dois aussi ajouter un merci pour votre accueil, parce que nous enregistrons cette émission, une fois n'est pas coutume, dans le château de Versailles ou près du château de Versailles, ce qu'on appelle les grands communs.
Le Grand Commun, oui, c'est le bâtiment qui était affecté sous l'Ancien Régime au logement des officiers de la cour et qui donc était là pour assurer le service domestique de la maison du roi.
Alors, Alexandre Maral, vous êtes archiviste, paléographe, docteur en histoire. Je mentionne le fait que vous avez consacré votre thèse à la chapelle royale de Versailles sous Louis XIV. Vous êtes ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome et vous êtes aujourd'hui donc conservateur général de ce qu'on appelle le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Enfin, vous êtes auteur de très nombreux ouvrages et vous venez de publier chez Perrin un épais, Les derniers jours de Versailles, un ouvrage volumineux mais extrêmement important. Je pensais, j'allais dire, tout savoir ou nous pensions tout savoir de la Révolution française, surtout 30 ans après les célébrations de 1989 que nous avons connues, ce qui ne nous rajeunit pas. Or, votre ouvrage nous prouve le contraire, nous ne savions pas tout et vous avez pris un parti dans cet ouvrage, unité de temps, unité de lieu. Vous vous êtes cantonné à l'année 1789 et aux événements, précisément, à Versailles. Vous avez choisi une méthode de narration qui rend votre ouvrage remarquable. De nombreuses citations puisées à des centaines et des centaines de sources qui nous permettent d'avoir un regard quasi inédit sur cette année sans pareil, un regard à 360 degrés. Alors, nous sommes attachés aux sources. Quelles ont été ces multiples sources, Alexandre Maral?
Merci d'abord pour cet éloge. Je suis très, très touché. Effectivement, on croyait tout savoir sur 1789 et moi-même, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que on connaît les grandes dates, on sait quels sont les enjeux, ce qu'elles ont apporté, ce qui s'est passé durant cette année-là. Mais quant au déroulement concret de ces faits, comment ça s'est préparé, comment ça s'est déroulé, quelles ont été les conséquences immédiate. Là, pour le coup, j'ai énormément appris et j'espère que ceux qui liront le livre apprendront autant que moi, parce que, cette année-là est a beau être universellement connue, dès qu'on approche, dès qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler la micro-histoire, le déroulement précis quotidien des faits, eh bien, on se rend compte que beaucoup reste à connaître. Alors, les sources, justement, je me suis fondé sur les sources. D'abord, je voudrais dire peut-être l'idée de ce livre m'est venue en voyant le film de Benoît Jacquot, Les adieux à la reine, qui met en scène le monde de Versailles au moment du 14 juillet 1789. On n'est pas à Paris, on n'assiste pas à la prise de la Bastille, mais on assiste aux répercussions que cet événement, ce coup de tonnerre que cet événement a déclenché dans le monde policé de la cour et l'effroi que ça a suscité. Et ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est de voir la réaction des petites gens, des officiers, de ces gens d'ailleurs qui vivaient dans les lieux où nous sommes, au Grand Commun, des serviteurs obscurs de la monarchie qui ne comprennent pas ce qui se passe et ne réalisent évidemment pas toutes les conséquences de ce que la prise de la Bastille va susciter. Et donc, j'ai voulu suivre cette méthode dans le livre et me fonder sur les sources strictement contemporaines de l'événement qu'elles décrivent. Pas me servir des mémoires rédigées sous l'Empire, sous la Restauration, à une époque où il y a suffisamment de recul pour se donner un beau rôle, pour tout au moins se donner le rôle de celui qui a compris les événements qu'il a traversés en 1789, mais plutôt me mettre à la place de et dans la peau de ces gens gens qui découvrent ce qui se passe sans réaliser évidemment tout ce que ça signifie. Et donc pour ça, les sources, les journaux, les lettres, les correspondances, les chroniques, ce qu'on appelle les diaires, et tout ça est fourmi d'indications sur le déroulement des faits et tel qu'on les aime. C'est-à-dire que on voit comment ça se passe, mais on n'a pas la clé que fournira l'historien plus tard lorsqu'il reviendra sur ces événements. Donc j'ai voulu reconstituer une tranche de vie, cette année 1789, comment ça s'est passé de façon concrète dans le monde de Versailles.
Dès les premières lignes, vous reprenez la fameuse phrase ou le fameux mot peut-être apocryphe de Louis XVI après le 14 juillet, quand il pose la question « c'est donc une révolte ?», on lui répond « non, sire, c'est une révolution ». Or, la première grande idée que l'on retient de votre ouvrage, c'est cette conscience. Est-ce qu'il y avait une conscience de vivre un événement hors du commun? J'ai fait une émission avec Bernard Cottret sur la Révolution anglaise, qu'il a requalifiée de rébellion britannique, où il montre bien que cette notion de révolution est a posteriori, est construite a posteriori. Est-ce que dans les témoignages, dans tous ces récits que vous avez utilisés, vous avez ressenti cette conscience d'un événement hors du temps?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que la Révolution française ait été une construction a posteriori. Évidemment, les événements qui se déroulent en 1789 sont très graves et on réalise que tout ça sort de la norme. Simplement, on ne mesure pas les conséquences exactes de ce qui se déroule. Et la phrase apocryphe, qui est une phrase apocryphe de Louis XVI, c'est donc une révolte. Non, sire, c'est une révolution, lui répond le grand maître de la garde-robe. Eh bien, cette phrase, tout apocryphe qu'elle est, en dit long. Sur la perception de l'événement, en l'occurrence il s'agit du 14 juillet, la perception de l'événement à Versailles. On le prend pour une rébellion urbaine, comme il y en a tant eu par le passé, et on ne mesure pas qu'il y a là un événement fondateur de la Révolution. Et donc ça en dit long sur l'écart qu'il y a entre le monde de Versailles et celui de Paris, écart qui sera résorbé, mais à la fin de l'année, après les journées d'octobre, au moment où donc le pouvoir est contraint de s'installer dans Paris. Là, la Révolution devient éminemment parisienne. Il y a plus ce décalage entre Paris et Versailles.
Alors, nous allons voir au fur et à mesure de l'émission, précisément. Alors, certes, en 93, on coupe la tête du roi, mais avant de couper la tête du roi, on coupe un symbole, ou en tous les cas, on détruit un symbole, où on veut faire de Versailles un symbole vide, vide de son pouvoir.
Et en fait, la journée la plus révolutionnaire, finalement, c'est peut-être pas le 14 juillet, c'est peut-être pas la prise de la Bastille, c'est sans doute le 17 juin, le moment où l'Assemblée des députés des États généraux prend le titre d'Assemblée nationale et se substitue au pouvoir. Il y a là une prise de pouvoir tout à fait révolutionnaire. Et personne à l'époque n'en a mesuré la gravité, l'ampleur.
Oui. Alors, nous allons y revenir, mais peut-être, j'allais dire en guise d'introduction ou de mise en bouche, il est très important de rappeler, alors d'autres l'ont fait avant vous, mais vous le faites en prologue, il y a une idée de réforme du royaume qui est très prégnante dans le règne de Louis XVI. C'est-à-dire que Louis XVI n'apparaît pas comme un conservateur, mais au contraire comme un personnage qui, proche des sciences, proche des connaissances, vous le montrez bien dans votre ouvrage, eh bien, veut réformer le royaume.
C'est un roi réformateur, tout à fait. Il le manifeste dès le début de son règne personnel, dès la mort de son grand-père. Donc, il prend tout un certain nombre de mesures très significatives. et en faveur d'un progrès. Notamment, c'est lui qui abolit le servage sur le ressort du domaine royal, c'est lui qui abolit l'usage de la torture, c'est lui qui donne aux protestants un état civil, ça il le fait en 1787, et aussi, on le souligne pas assez, c'est lui qui s'est engagé personnellement au service de la cause des Américains, qui lutte pour un régime démocratique, pleinement démocratique. Donc c'est un roi, un souverain de monarchie absolue, héritier de Louis XIV, de Louis XV, mais c'est un roi réformiste, réformateur, et on a même parlé de révolution royale pour désigner toute son action entreprise à partir de 1786, au moment où il veut justement rationaliser, clarifier, réformer les finances de l'État. Les grandes révolutions commencent souvent par des questions financières, et l'action de Louis XVI à partir de 1786, c'est en faisant venir Calonne comme contrôleur général aux finances, donc, eh bien, c'est de clarifier la gestion des finances de l'État.
Est-ce que c'est un personnage, parce que vous utilisez quand même le terme, qui était autoritaire? On a l'impression, et on le verra plus tard, que c'est un personnage qui subit les événements. Or, dans cette révolution royale, il y a à la fois une forme d'autoritarisme et de volonté.
Autoritarisme, c'est peut-être un mot, volontarisme en tout cas. Il est volontaire, il veut faire avancer les choses, et il en prend les moyens. Il s'appuie sur une équipe de ministres qui, comme lui, veulent sont très volontaires. Je pense à Turgot au début du règne, Necker ensuite, Vergennes, qui a été très longtemps ministre, secrétaire d'État des Affaires étrangères. Ce sont des personnalités efficaces, Malesherbes aussi. Efficace, au service d'une conception de la monarchie absolue, mais plus éclairée, plus évoluant vers véritablement un progrès. Dans le domaine culturel, c'est le comte d'Angevillers aussi, qui est une figure qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, mais qui fait évoluer le système des arts vers une plus grande prise en compte des aspirations néoclassiques de ces artistes de son époque. Et il y a là un mélange de, on pourrait dire, un héritage de forme de monarchie absolue avec ce mode d'exercice du pouvoir, et en même temps une adaptation, un désir de réforme.
Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec l'ambassadeur Montferrand sur Vergennes, et j'en viens à l'Assemblée nationale. Le terme même d'assemblée, Louis XIV utilise le terme d'assemblée de la nation, c'est un thème très important parce que il crée une sorte de séparation entre ce que pourrait être la nation et ce qu'est le roi. Le roi est à la tête normalement de la nation, et on a l'impression que se crée une forme de distinction si bien qu'une séparation est possible.
Alors, une séparation, peut-être pas, mais une distinction. Et ça, c'est traditionnel à la monarchie française. Le roi ne gouverne jamais seul, même au sommet de la monarchie absolue, même sous Louis XIV. Le roi, on dit le roi en son conseil. Le roi gouverne toujours en son conseil. C'est-à-dire que toute décision fait l'objet de discussions, de concertations. Et cette concertation est plus ou moins élargie. Là, il y a une tradition des états généraux en France qui remonte au XIVe siècle, et même avant, si on veut, sous d'autres formes, où le roi consulte les députés de la nation pour avant de prendre telle ou telle décision. Et donc, lorsque Louis XVI convoque les États généraux, il est dans cette tradition qui, certes, n'a pas été illustrée récemment au moment où il le fait, puisque la dernière convocation des États généraux datait de 1614, mais lorsqu'il le fait, c'est pour résoudre une question importante, donc c'est cette crise financière. Ça fait partie de sa politique volontariste de réforme de l'État, et donc il estime important de consulter les États généraux. On parle des États généraux de la nation, c'est un corps qui est distinct de celui du roi, mais pas pour autant en opposition. Ça n'est pas perçu comme une opposition politique, comme l'opposition politique que ça va devenir, justement.
Est-ce que c'est un risque de rassembler les États généraux à Versailles?
Nous pensons que c'est un risque parce que nous le voyons avec le recul du temps, mais au moment où il le fait, est-ce qu'il peut avoir l'idée, la préscience, la conscience, faire l'analyse que ça puisse consister, présenter un risque? Ça, c'est pas forcément dit, non. Le risque à son époque, c'est l'opposition parlementaire. Et justement, le fait de convoquer les États généraux, c'est une manière de court-circuiter les parlements, qui sont un organe d'opposition qui a empoisonné une opposition qui a empoisonné tout le règne de Louis XV et une bonne partie de celui de Louis XVI. Donc, en convoquant les États généraux, il peut penser à bon droit qu'il va se débarrasser de cette opposition parlementaire et qu'il va pouvoir envisager ses réformes de manière plus constructive et plus concertée encore.
Mmh. Alors, un élément est très important, vous le présentez à travers les nombreuses citations qui jalonnent votre ouvrage, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une chose qui ne cesse de se développer, et au-delà de l'opinion publique, on parle beaucoup des réseaux sociaux, des rumeurs, des fake news sur les réseaux sociaux. Or, des informations fausses, à l'époque, mais il y en a, mais énormément, ça pullule.
Il y en a beaucoup, oui. Mais ça, l'opinion publique, c'est une donnée qui est importante depuis au moins le milieu du XVIIIe siècle, avec donc tous ces campagnes de rumeurs, de pamphlets, de rumeurs malveillantes sur Louis XV. Et donc c'est c'est un phénomène que l'on ne maîtrise pas forcément très bien, mais que l'on connaît et dont on tient compte. Et lorsque Louis XVI convoque les États généraux, eh bien, c'est évident qu'il va dans le sens de l'opinion publique. C'est une mesure populaire, donc ça le conforte, ça, à ce moment-là.
Contre les parlementaires, il faut le rappeler, qui, pour le coup, apparaissent comme conservateurs.
Contre les parlementaires. Et justement, les parlementaires qui se sont présentés durant tout le XVIIIe comme les représentants de cette opinion publique, eh bien, dès lors que les États généraux sont convoqués, sont totalement discrédités, disqualifiés, et ils apparaissent pour ce qu'ils étaient depuis le départ, c'est-à-dire une coalition, un lobby de conservateurs.
On parle de l'opinion publique, on parle du risque de rassembler les États généraux à Versailles. Est-ce que Versailles était impopulaire dans l'opinion publique? Que représentait Versailles en 1788 pour les Français?
C'est un lieu dont on a une appréciation mitigée. C'est un lieu fascinant, qui est l'image presque parfaite du système absolutiste voulu par Louis XIV. C'est un lieu donc où le poids de cet héritage absolutiste est visible. Et donc ça a une connotation comment positive, c'est-à-dire que on y voit un exposé du pouvoir dans sa forme la plus aboutie, pouvoir monarchique bien sûr, et en même temps c'est un lieu décrié parce que on voit bien que la cour vit presque en autarcie. Si vous voulez, le projet Louis XIV c'était de réunir à Versailles l'élite du royaume, et avec cette idée que il allait s'instaurer une communication entre une diffusion entre ce monde de la cour et l'élite elle-même du royaume. Ça a marché au début, puis ensuite, effectivement, la cour s'est refermée sur elle-même, et cette coupure est de plus en plus mal perçue dans l'opinion publique. Et donc, c'est d'où ce caractère un peu double de Versailles, cette perception double de Versailles, qui était un lieu fascinant, mais aussi une prison pour le pouvoir.
Versailles n'impressionne plus comme Versailles impressionnait au temps de Louis XIV?
Si, Versailles impressionne encore, mais c'est vrai, on le sent dans les... là, je parle d'un point de vue purement touristique, c'est-à-dire que certains visiteurs se mettent à critiquer l'agencement des bâtiments de côté ville, notamment. Il y a des projets qui se font jour de reconstruction de Versailles, et au-delà de la critique portée contre cette architecture, il y a évidemment aussi une remise en cause du système de légué par Louis XIV.
Vous citez un des acteurs ou une des actrices, Madame de Boigne, qui rapporte dans ses mémoires plusieurs anecdotes, dont une qui illustre, je vous cite, le refus de la cour d'assimiler les élites montantes. Est-ce que Versailles donne aussi cette image d'un monde clos, un peu renfermé sur lui-même ?
C'est ce qu'il a eu tendance à devenir sous le règne de Louis XV et plus encore sous celui de Louis XVI, parce que finalement le projet de Louis XIV de rassembler les élites du royaume à Versailles a trop bien marché. Et du coup, il n'y a plus ce système de vases communicants entre élites de la cour, élites autour du roi et élites du royaume. Il y a une fermeture des élites de la cour sur elles-mêmes. Et ça se traduit notamment sous la question des honneurs de la cour. Il faut, pour pouvoir être présenté au roi, avoir un certain nombre de quartiers de noblesse, une noblesse qui remonte à 1400. Ça apparaît donc sous Louis XV, cette obligation. Ensuite, on a sous Louis XVI une fermeture des cadres de l'armée également à la noblesse d'ancienne souche. Ce sont les édits de Ségur, pris au début des années 1780. Et Madame de Boigne, alors il faut se méfier parce qu'elle écrit sous la Restauration, elle écrit bien après les événements, mais elle traduit, elle relate des souvenirs de son enfance, et ces souvenirs vont dans le sens d'une fermeture de la cour sur elle-même et d'une exclusion de ceux qui n'en sont pas. D'ailleurs, je signale à ce sujet que ce livre a inspiré un autre film, Ridicule, qui traduit assez bien le climat de la cour, avec donc cette question des soupers du roi, où on est conviés sur invitation. Et c'est toujours les mêmes qui sont évidemment invités à ces moments de privance autour du roi. Et donc, Madame de Boigne relate, et c'est dans le film, le cas de ce noble qui a souhaité être invité à ces soupers du roi et n'a jamais pu l'être, et finalement finit par se pendre, se suicider. Et le fait est vrai, c'est un fait qui en dit long sur la fermeture de ce monde de la cour à ceux qui n'en sont pas.
Quelle est l'ambiance au sein de la famille royale
en 1789? Eh bien, la famille est... donc, on parle du roi, de sa femme, Marie-Antoinette, de ses enfants. Il y en a trois. Madame Royale, l'aînée, le dauphin et puis son petit frère. Et puis on parle aussi des deux frères du roi, le comte de Provence, futur Louis XVIII, le comte d'Artois, futur Charles X, et puis la petite sœur, Madame Élisabeth. Donc c'est une famille finalement beaucoup moins nombreuse que sous Louis XV, qui, je rappelle, a eu 10 enfants. C'est une famille qui est relativement unie, même s'il y a certains désaccords de caractère, de différences de tempérament entre le roi et son frère, le comte de Provence notamment. Mais c'est une famille qui va vivre des événements tragiques, puisque début juin meurt le dauphin. Et là, donc, c'est une mort qui intervient au très mauvais moment, puisqu'on est les États généraux se réunissent depuis le 5 mai, et moins d'un mois, le 4 juin, donc, c'est la mort du fils aîné du roi, de l'héritier du trône. Symboliquement, c'est une disparition qui en dit long sur l'avenir de la couronne. Et en même temps, c'est un enfant auquel ses parents sont très attachés parce que il a beaucoup souffert dans ses derniers moments, la tuberculose, et il y a un vrai amour, et donc ils sont, on peut le dire, ils sont dévastés par ce décès et le fait que ça va occuper toute leur attention à un moment où la situation politique va rapidement évoluer.
Malgré tout, alors certes les États généraux ont débuté, mais vous mentionnez quand même le fait que par le discours, ce que vous appelez d'ailleurs la révolution du 24 janvier, par le discours du 24 janvier sur la préparation des États généraux, eh bien le roi semble abandonner ses prérogatives.
C'est très curieux ce discours, effectivement, puisqu'il parle d'Assemblée nationale. Il évoque aussi la question du mandat des députés. Est-ce que c'est un mandat impératif ? il semble prendre des positions assez avancées, assez révolutionnaires. Il y a ce discours, il y a aussi la décision de la toute fin de l'année 88 de doubler le nombre de députés du tiers-État, comme si, là aussi c'est une aspiration qui est portée par l'opinion publique, mais alors même que dans le cadre des États généraux, normalement, les députés vont voter par ordre, c'est-à-dire le clergé, la noblesse, le tiers-État, le fait de doubler le nombre de tiers-État laisse penser qu'on envisage qu'ils puissent voter par tête, et là aussi c'est une mesure assez inexpliquée, mais qui est de fait assez révolutionnaire. Oui.
Alors j'ai appris que déjà à Rennes il y avait des troubles à cette époque-là, et il y aura d'ailleurs le club breton qui sera à l'origine du club des Jacobins.
Oui, club breton qui se réunit à Versailles dans une maison qui existe encore d'ailleurs et que fréquente et Robespierre notamment. Tout le monde est là hein, déjà. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est de se dire que tous ces acteurs, bien la plupart vont être guillotinés dans les années qui suivent. Il y a une accélération du temps. Vous parliez de l'unité de temps. Alors c'est l'année 89, mais il y a une superposition déjà au cours de cette année entre peut-être pas deux temps, mais deux temporalités. Le temps long de la cour, de cette cour qui vit selon les mêmes rituels immuables et cérémonies qui se répètent, qui semblent ne devoir jamais finir. Et puis ce temps de l'histoire qui fait irruption d'une histoire révolutionnaire et avec tous ces acteurs qui se fréquentent. C'est une année vraiment fascinante, fascinante. Mmh.
Les députés donc se rassemblent au sein des États généraux. Ça représente à peu près combien de personnes ?
1200, ils sont 1200 les députés, puis donc 600 du tiers État, 300 de la noblesse, 300 du clergé. Mmh.
Il y a une fidélité au roi et on voit tout au long de votre livre, bon jusqu'à une certaine période bien évidemment, mais même en octobre, on entend encore des « Vive le roi ».
Vive le roi, et puis ils sont fascinés par Versailles. Là, pour le coup, ils vont devoir vivre, ils pensent, quelques jours, quelques semaines, en fait, quelques mois à Versailles. Et on les voit, ils s'empressent de visiter, hein, et ils se comportent en curieux, en touristes, et en admirateurs de cette maison qui est le plus beau palais d'Europe, avec toutes ses richesses artistiques. Ils sont très curieux de voir ça. Ils veulent voir aussi le fonctionnement de la cour. Ils sont vraiment fascinés parce que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent à Versailles.
Alors, les analogies historiques ont leurs limites, mais en vous lisant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Concile Vatican II. Au Concile Vatican II, Jean XXIII dit qu'il ne participera pas au débat. Et Louis XVI ne participe pas au débat, même si, bien évidemment, il ouvre les États généraux par un discours qui est très important.
Oui, 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 il y a un parallélisme, vous avez raison de le souligner, entre les États généraux de 1789 et le Concile Vatican II, avec, dans un cas comme dans l'autre, des conséquences énormes qu'on probablement on ne pouvait pas envisager, dans toute leur ampleur en tout cas, au moment des faits.
Alors ce discours, c'est un discours malgré tout programme qui donne une indication aux États généraux, mais les États généraux, pendant des jours et des jours, ne semblent pas agir et restent dans des querelles de définition de pouvoir.
Alors oui, les premières semaines de débat vont être empoisonnées par la question du vote. Faut-il voter par ordre, comme c'était le cas en 1614, ou bien faut-il voter par tête? Donc, là, évidemment, la noblesse et le clergé, alors la noblesse unanimement, le clergé majoritairement, sont pour le vote par ordre, on les comprend, et tandis que le tiers, lui, milite pour le vote par tête. Donc, un refus de délibérer sur, justement, pour commencer à travailler sur les grandes lignes du programme fixé par notamment le discours de Louis XVI à l'inauguration, à l'ouverture des États généraux. Et cette question va trouver un aboutissement Alors, ils vont essayer d'avoir l'arbitrage du roi, mais le roi se dérobe parce qu'il y a tout le système de cour qui l'isole des délibérations des États généraux. Il y a aussi, je le disais, la fin de la vie, l'agonie et la mort du dauphin. Le roi donc se détourne du cours des États généraux, et donc la solution, elle est trouvée par un coup de force, c'est le 17 juin, sur motion de l'abbé Sieyès, qui fait partie des députés du tiers état, eh bien la constitution des états généraux en assemblée nationale. Et dès lors, donc le tiers et une partie du clergé qui l'a rallié se considèrent comme l'assemblée nationale et donc en conflit avec l'autre partie du clergé non rallié, avec la noblesse, et donc ce conflit va durer quelques jours, évidemment, mais il va l'emporter. C'est la naissance de l'Assemblée nationale.
Mais est-ce qu'il y a une préméditation dans cette volonté de constituer cette Assemblée et, au fond, de marcher sur les prérogatives des autres ordres?
Alors, c'est difficile. Il est probable que certains des députés du tiers aient eu d'emblée cette idée qu'il fallait changer le système de la conception du système politique en France, mais pour la plupart, et là je renvoie à un ouvrage qui m'a servi, que je cite dans la bibliographie de Timothy Tackett, comment ces députés sont devenus ont pris une conscience qu'ils étaient comment est née la représentation démocratique, dite démocratique. Eh bien c'est au fil des jours, il y a d'une part la dérobade du pouvoir royal, d'autre part l'attitude pleine de morgue assez maladroite, il faut le dire, de la noblesse et d'une partie du clergé, le haut clergé, et donc petit à petit, par un enchaînement des faits, eh bien ils vont se trouver à même de se déclarer eux-mêmes les représentants de la nation.
Il y a un mot très important qui est du baron d'Arambur, je ne sais pas si je prononce correctement, député de la noblesse du Béage de Tours, qui, au moment des débats, parle d'un projet donc de conciliation favorable à la réunion des ordres, et il dit « Faut-il sans cesse parler d'ordre et jamais de patrie ?» C'est en soi une rupture, parce que on veut remplacer l'ordre par, enfin les trois ordres, une tradition, par cette idée de patrie qui, à l'époque, est une idée révolutionnaire.
Oui, parce que au fond, la société d'Ancien Régime se pense en société d'ordre où chacun a sa place. On parle d'ailleurs des privilèges. Tout le monde a des privilèges sous l'Ancien Régime, mais
les Bretons ont des privilèges.
Et avec donc cette citation que vous venez d'évoquer, on passe à un système où finalement tout le monde est à même enseigne. C'est la fin des privilèges. C'est la naissance de l'égalité. Et effectivement, le liberté, égalité, fraternité, ce sont des concepts tout à fait révolutionnaires qui se mettent en place au cours des événements de 1789.
Alors, la fin de votre chapitre, mercredi 17 juin, la fin de la monarchie absolue, est absolument révélateur de ce qu'il se passe dans la tête de ces acteurs. Au moment d'une sortie, on crie « Vive le roi et l'Assemblée nationale », ce qui fait rire le roi et son frère monsieur. Il n'a pas conscience de ce qu'il se passe.
La scène que vous évoquez, je crois, c'est sur le parvis de l'église Notre-Dame de Versailles. Oui. Il sort d'une cérémonie religieuse. Je me demande si ce n'est pas la fête de Dieu ou quelque chose comme ça. Et effectivement, ils entendent ça, ils rient. Et ça montre qu'ils n'ont pas perçu la gravité de ce qui venait de se dérouler. Mais au fond, qui l'a perçu, on ne sait pas bien. Si même les députés qui se sont constitués en Assemblée nationale, bon, ils ont conscience de faire quelque chose d'important, mais est-ce que c'est pour autant la fin de l'Ancien Régime? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Dès lors qu'on a une Assemblée représentative qui se déclare nationale, le roi change tout à fait de place dans ce système. Il prend la place, finalement, de celle qu'occupaient les parlements dans l'ancien système, c'est-à-dire qu'il devient une instance d'enregistrement, éventuellement de représentation, enfin de représentation au sens de remontrance, mais nullement une instance décisionnaire. C'est l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Mmh. Mais est-ce que tous ont conscience de... C'est difficile à dire, et probablement que non. Mmh.
Donc le roi est le grand vaincu de cette journée du 17 juin.
C'est le grand vaincu. Alors, il le réalise pas le jour même, mais il va se retirer à Marly. Et là, donc, il va échafauder un plan de réaction. Hein. C'est la fameuse séance royale qui se déroule le 23 juin. Séance royale au cours de laquelle il vient en personne, donc, devant ce qu'il considère encore comme les états généraux, mais en fait, il veut donc rétablir l'ordre des choses, la monarchie absolue. Simplement, là encore, le 23 juin, nouvel échec, il a beau faire son discours, les députés refusent donc de lui obéir.
Alors nous allons faire un bond dans le temps, Alexandre Maral, parce que malheureusement nous n'avons, il nous reste qu'une dizaine ou une douzaine de minutes. Cette date du 17 juin, elle est très importante, mais sur l'année, il y a une autre période qui est aussi importante, et peut-être encore une fois plus que ce moment de la Bastille que l'on a décrit sur cette antenne avec Jean-Christian Petit-Fils dans son dernier livre, c'est la période du 1er octobre. Et il y a cet événement qui est assez étonnant parce que il illustre parfaitement au fond l'ambiance qui régnait à cette époque, c'est le banquet de l'opéra. Alors on se pose évidemment la question de savoir où est l'armée à cette époque, et lors de ce banquet, ce banquet va en quelque sorte cristalliser un certain nombre d'oppositions, et ces oppositions vont s'incarner dans la fameuse ruée de toutes ces femmes de Paris vers Versailles.
Et là, oui, les événements d'octobre sont tout à fait importants aussi, et là, pour le coup, on peut penser que il y a certes une part de spontanéité. Ces femmes ont faim. On sait que le roi est à Versailles et on se dit que si le roi vient à Paris, eh bien, on sera davantage et mieux ravitaillé. Mais il y a aussi ces journées d'octobre viennent après tous les débats de septembre. Il faut suivre ces débats de septembre parce que c'est fondamental tout ce qui se passe. C'est toute la discussion sur les premiers articles de la Constitution et où on voit le roi qui continue à affirmer des positions, bien qu'il veuille, il aborde ces questions-là avec un esprit de compromis, mais néanmoins, il veut rappeler qu'il est le chef de l'exécutif et il entend défendre ses positions. Et il a face à lui des députés qui ne veulent pas discuter. Et donc, les journées d'octobre viennent clore finalement ce début de débat et encore une fois, à l'avantage des députés de l'Assemblée nationale. Et c'est là où on peut penser que une partie de ce mouvement d'octobre a été préméditée, hein, pour le coup, puisque le palais est envahi, on force le roi à annoncer son départ pour Paris. C'est la fin de la période versaillaise de la monarchie. Et une fois qu'il sera à Paris, eh bien, il est en fait le piège se referme sur lui, il est prisonnier, il devient c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on l'appelle plus, on change sa titulature à l'Assemblée, ce n'est plus le roi de France, c'est le roi des Français. Mais des Français, c'est un génitif, mais ça veut dire qu'il est la possession des Français, hein. C'est les Français qui ont leur roi.
Alors, vous prenez littéralement le lecteur par la main et on suit tous ces événements. Il y a un moment où autant suspend ton vol, les femmes marchent sur Versailles et il y a une délégation qui est reçue par le roi. Alors au début, je ne sais plus, elles sont une douzaine ou une vingtaine, et finalement, il n'y en aura que quatre ou six qui pourront voir le roi. Et là, elles sont je vais pas dire qu'elles tombent à genoux, mais elles ressortent et c'est vive le roi.
Il y en a même une qui s'évanouit d'émotion. Si, elles sont très très impressionnées et d'ailleurs elles sortent enthousiastes et elles se font invectiver par leurs congénères qui sont restés à l'extérieur. Et parce que c'est vrai qu'elles Versailles a encore une capacité d'éblouissement en octobre 1789, mais c'est les derniers feux. Mmh. Ces événements d'octobre sont très complexes. Et là, il faut dire, il y a eu un travail aussi très intéressant mené par Henri Leclerc, que je cite dans la bibliographie, dans les années 1920, de dépouillement de plus de 300 témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire, puisque il y a eu enquête en 1790 sur le déroulement de ces événements. Et donc, il est ainsi possible de reconstituer heure par heure tout ce qui s'est passé pendant ces deux journées. Et effectivement, c'est assez complexe. C'est pour ça que j'ai voulu traiter ça de la manière la plus méthodique possible, en prenant évidemment les témoignages les plus probants. Et parce qu'on ne se rend pas compte de la densité des événements qui se sont déroulés pendant ces deux jours.
Est-ce que, alors la question peut sembler triviale ou trop simpliste, mais on a l'impression de voir donc deux périodes, et une période qui est la première assez longue, qui est une période très politique, à laquelle succède une autre période qui, elle, pour le coup, mêle l'opinion publique et la foule, et c'est la foule qui fait venir le roi à Paris.
C'est la foule, mais une foule en partie manipulée par l'Assemblée. Il y a deux vagues hein, dans les journées d'octobre. Il y a d'abord ces femmes, et puis ensuite il y a Lafayette avec la garde nationale qui arrive de Paris. La garde nationale, c'est en grande partie l'ancienne garde du roi, les gardes françaises hein, qui forment les bataillons qui sont passés à la garde nationale. Ils ont déserté Versailles fin juillet, et ils reviennent en octobre. Et donc tout ce monde-là est en lien avec le monde politique de l'Assemblée nationale. Et il y a donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Mounier, hein, le président de l'Assemblée nationale, parvient à faire signer au soir du 5 octobre, le consentement, hein, il fait signer au roi le consentement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux premiers articles de la Constitution. Il obtient donc, sous la pression des événements qui sont en partie orchestrés, je le dis, par l'Assemblée nationale, il obtient donc, sous la pression de ces événements, un consentement que le roi avait refusé et il avait argumenté son refus le mois précédent, mais les députés estimaient qu'ils n'avaient pas à discuter avec le roi. Le roi était là pour signer et un point, c'est tout.
Le roi à Paris, dès lors, Versailles se vide.
Versailles se vide de façon assez impressionnante, spectaculaire, puisque on dit qu'il y a plusieurs centaines, voire plus d'un millier de voitures qui quittent Versailles le 6 octobre à la suite du roi. On vide une grande partie du château, on ferme les portes, les volets.
Le château est pillé ou...
Non, le château n'est pas pillé, mais on met à l'abri quand même les meubles les plus précieux aux garde-meubles. Et puis la ville se vide aussi. Alors là, alors que les Versaillais applaudissaient le cours de la Révolution, eux aussi se trouvent un peu le bec dans l'eau, parce que c'est le départ de la cour, c'est la ruine de la ville. La Versailles devient très vite une ville morte. Elle perd pratiquement la moitié de ses habitants en quelques semaines.
Elle a bien profité du fait qu'il y ait plus de 1200 députés qui soient là en montant les prix.
Mais
notamment
prospérité de faible durée, parce que dès lors que tout le monde est parti, eh bien, il n'y a plus de... Et Versailles n'est pas encore un lieu touristique, que ça deviendra par la suite. Donc, c'est vraiment une ville abandonnée.
À partir de quand Versailles devient un monument historique ?
Alors, il est le grand tourisme, celui qui a vraiment relancé le tourisme à Versailles, c'est le roi Louis-Philippe, qui, en 1837, il ouvre un musée dédié à toutes les gloires de la France. Donc, beaucoup de monde, à ce moment-là, va se remettre à fréquenter Versailles. Et puis ensuite, c'est un mouvement qui va aller crescendo jusqu'à aujourd'hui.
Alors, nous vivons, l'année 89, C'est une année sans pareil, c'est l'expression qui est couramment utilisée. Mais pour définir l'attitude du roi, vous reprenez et vous faites vôtre l'expression de Jean-Christian Petit-Fils de pacifisme absolu. Il y a chez Louis XVI ce pacifisme absolu où on a l'impression qu'il subit les événements alors que précisément il apparaissait, on va dire jusqu'en 1987, comme un roi réformateur. Et comme un très grand roi, Montferrand, que j'évoquais tout à l'heure, estime que jusqu'en 87, le roi Louis XVI, s'il était mort en 87, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de l'histoire de France.
Sûrement, sûrement. Et Jean-Christian Petit-Fils, que vous citez, a très bien cerné la psychologie de ce roi, qui effectivement a été pétri des idées de Fénelon, entre autres, et donc ce pacifisme eh bien s'ancre dans une conception religieuse, politique, philosophique de la vie, et il va l'appliquer de façon méthodique. Hein, il n'a pas fait couler une goutte de sang. Alors s'il y a eu avant en avril, mais ça c'est un événement parisien, il y a eu la répression des journées révolutionnaires. Mais lui n'a jamais été à l'origine directe d'une répression sanglante d'un mouvement de foule, et il l'a montré donc que ce soit en juin, juillet et ensuite en octobre 1789 à Versailles.
Eh bien merci beaucoup Alexandre Maral. Donc Les derniers jours de Versailles, un livre, c'est une coédition entre le château de Versailles et les éditions Perrin, un livre que je vous recommande, chers auditeurs, chaleureusement. N'oubliez pas aussi de soutenir Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre dans l'espace Soutenez-nous de notre site storiavoce.com, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Grands Entretiens. Merci et à très bientôt.